Erasmus, ce n'est pas que pour les étudiants. Après Bruxelles, après l'Angleterre, les pôles culturels des Pays de la Loire se dirigent dans le sud de la Suède et à Copenhague. Et contre toute attente, comme en Angleterre, le mot phare de cette mobilité, eh bien c'est...
Pragmatique.
Et ce, malgré donc l'idée qu'on se fait des pays scandinaves et de la force de leur secteur public. Mais ce pragmatisme a une origine qui nous est mieux expliquée par la directrice du théâtre populaire de Göteborg, Lotta Läckvall.
Nous avons probablement toujours le plus grand nombre de subventions pour la culture d'Europe, mais il décline.
Alors, prêt à déconstruire vos préjugés sur les Scandinaves ? Eh bien, on part immédiatement pour Lund, dans la banlieue de Malmö, en Suède, pour rencontrer Trans Europal. Partenaire principal de cette mobilité, TransEuropal a captivé les pôles. Mais qui ont-ils appris ? Eh bien, c'est ce que nous explique Emmanuel Garcia de Mobilis.
Toute la production d'outils pour l'autonomisation et des membres et de l'équipe pour pouvoir travailler. Donc là, il y avait les guidelines pour participer à des hubs, pour produire des rapports qui soient cohérents pour l'Europe. Donc le brand book pour l'équipe, tout ça fournit un cadre de manière à ce que les gens soient le plus autonomes possible, donc les membres et l'équipe. Une forte valorisation des adhérents, qui est très intéressante. Et puis, à nouveau aussi, la question de la transparence par l'exemple sur le fait que beaucoup d'informations sont mises à disposition et favorisant le peer-to-peer, donc en fait une forme de circulation de l'information assez importante, apparemment en tout cas.
Oula, moins vite Emmanuel, on va prendre le temps donc de dérouler tout ça. Déjà, TransEuropal, c'est quoi ? Eh bien, c'est un réseau européen de friches culturelles et artistiques. Ou comme nous l'explique Yann Biezon du pôle musique actuel.
C'est juste des centres culturels qui ont pris corps dans des anciennes usines en fait.
Un réseau dont la tête est à Lund, d'une part parce que l'ancienne présidente du réseau est elle-même originaire de Lund, mais aussi comme nous l'explique la nouvelle présidente du réseau, Mieke Reinders, pour des conditions financières avantageuses dans les pays scandinaves.
Nous essayons de nous implanter plus fermement en Scandinavie. C'est pour nous une excellente localisation parce que pour le moment, les subventions sont plutôt généreuses. Du moins, comparées à celles de Bruxelles, par exemple. Donc, nous essayons de mieux nous ancrer ici. De même, nous avons commencé un espace de travail, un hub, avec les pays baltiques et scandinaves. L'un des objectifs est d'obtenir plus de subventions scandinaves. Ici, il y a plein de fondations. Danoises, suédoises, finnoises, norvégiennes. Des fondations qui peuvent accompagner notre réseau.
Mais quels sont donc les critères d'adhésion au réseau TransEuropal ? Eh bien, c'est ce que nous explique Adrien Eudier de la plateforme, aidé par Benoît-Marie Morisseau.
Il faut que ce soit des lieux qui travaillent à partir de bâtiments ou de lieux réorientés, quoi. Ou des structures non-profit, non-for-profit. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en français.
Non lucratif.
Voilà. Ouais. Merci.
Mais en plus de ces critères, ce sont les valeurs portées par le réseau TransEuropal qui importent le plus à son adhésion, comme nous l'explique Burak Seying du TransEuropal.
La valeur ultime de nos membres, c'est d'être humble et accueillant en même temps. Nous sommes connectés à cette humilité. Donc, nous ne faisons pas vraiment notre promotion. Ce que l'on fait, c'est qu'on est sur la place publique où l'on s'expose, nous et notre travail. Et ce sont les gens qui nous approchent.
Ces valeurs qui font donc tout le lien entre les membres de TEH, c'est ce que nous confirme Yann Biezon.
Qui rapproche les gens, c'est les valeurs qui sont véhiculées au travers du réseau qui ont l'air d'être assez fortes en fait. À mon avis, ils peuvent avoir un fonds de commerce de friches culturelles, il y en a énormément en Europe, mais du coup, l'exigence dans l'appartenance du TransEuropal n'est pas neutre et du coup, ce qui fait que je sais pas combien ils ont de membres, mais ils n'en ont pas tant que ça par rapport au nombre de friches qu'il peut y avoir en Europe.
Yann, qui continue et souligne que même une fois cette approche lancée, l'adhésion reste un mouvement très compliqué qui va surtout prendre beaucoup de temps.
Apparemment, c'est long quand même à devenir adhérent. T'as tout un process.
C'est un an.
Bah oui, parce que si c'est l'Assemblée Générale qui valide. Donc vu que t'en as deux par an.
Ils n'ont pas une politique de développement importante de leurs membres.
Non, ils n'en ont pas envie, ils n'en ont pas besoin en fait.
Ils sont déjà surbookés de boulot.
Ouais.
Une importance des valeurs encore une fois soulignée par Michel Hubert, surtout dans un réseau directement en rapport avec l'Union Européenne.
comme une notion de valeur, enfin, les valeurs de base de leur réseau. C'est la culture comme un bien commun, les initiatives bottom-up, etc., qui sont mises en valeur, qui sont les valeurs de base des membres, au moins originelles. C'est assez balèze des projets européens, je pense, de garder aussi présentes des valeurs qui ne sont pas des valeurs libérales, purement économiques.
Importance des valeurs qui posent un autre inconvénient, le changement de génération, comme nous l'explique Mickey.
Maintenant, il y a une nouvelle génération qui reprend les anciennes institutions. Ils comprennent mieux l'échange. La première génération des années 80, et maintenant ils vont en pension. Ils vont en retraite et en pension. Alors je crois que comme ça, ça marche mieux. Parce que si le temps serait un peu plus court, ça sera une friction, je crois, entre les deux générations. Mais aussi, dans les institutions, il y a des nouveaux managers ou des nouvelles personnes qui aussi le font un peu différent que les fondateurs. Ouais. Alors, je crois que ça, ça marche. Parce que les vieux qui viennent, les vieux, ils se complaignent un peu. Je ne connais pas tout le monde, c'était différent, on était plus hippies. On ne va jamais être plus hippies. On ne va pas retourner à hippies. On est différents, on est des rebels, mais on ne va pas être hippies. Je sais que c'était hippie en les années 80, mais c'est plus... Moi aussi, je le dis. Si vous voulez hippie, je suis désolée, mais... On est rebels, mais pas hippies. Parce que tout le monde est très intelligent. Ils font des choses différentes, mais avec beaucoup de pensées et de philosophies. Vraiment pour faire.
Le fonctionnement de la structure repose donc sur des projets, notamment des projets financés par l'Union européenne. Le réseau transeuropal vit sur une logique de projet, une logique que nous explique Yann.
Les projets qui sont mis en place par le Transeuropal, c'est des échanges de savoir-faire qui ont pour objectif de soutenir l'initiative des habitants des quartiers où sont installés, de faire participer ces gens-là dans la vie du lieu. Mais il y avait aussi un gros soutien à l'entrepreneuriat pendant le dernier cycle de projet. Il y a eu vraiment toutes les questions de militantisme, en fait, aussi, de comment les centres culturels et ces friches font partie et participent à la vie de la cité. Chez nous, c'est ce qu'on appellerait l'éducation populaire, je crois que c'est quelque chose qui est très très fort au sein de leur réseau.
Une logique qui l'intéresse, mais dont la transposition en Pays de la Loire l'interroge.
En fait, ce qui simplifie leur action, c'est le fait qu'ils soient financés sur projet et qu'ils ont un temps donné pour le réaliser, alors qu'on a un certain confort dans le sens où on est financé pour le fonctionnement et que du coup, on peut se laisser aller à une réflexion qui prend plus de temps, mais qui rend des fois aussi plus flou le contenu de nos opérations ou de notre travail. Je trouve que le financement des pôles, il est proportionné pour stabiliser une équipe. Au pôle musique actuel, c'est 4 personnes. C'est juste peut-être ce sentiment d'insécurité qui peut nous manquer des fois pour... peut-être c'est ça.
Autre souci, mais qui peut se transformer en force, c'est l'intérêt du réseau dans son travail, intérêt qui dépend donc de celui des projets, c'est ce que pointe Mickey.
S'il y a des projets intéressants, ça nous donne beaucoup d'énergie. Pour faire le concept, trouver des partenaires.
Emmanuel montre tout de même une autre conséquence de ce système qui repose beaucoup sur l'implication de ses employés, comme dans le cas d'Olga.
Je lui ai demandé, mais à partir de quand vous pensez que vous êtes bonne en communication, que vous avez toute la culture de l'organisation? Elle a dit, en fait, bon, d'abord, ils nous ont recruté parce que ils ont choisi au milieu de tout d'autres. Et ensuite, elle a dit, mais en fait, on a un brand book, une sorte de charte, un livre de marque. Et donc, elle dit, mais on n'est pas tout le temps en train d'inventer des trucs. En fait, on se réfère à des usages qui sont en route déjà depuis une vingtaine d'années et dont on se nourrit. Et ensuite, nous, on avance avec les outils d'aujourd'hui et ce qu'on sait faire parce que c'est notre métier, quoi.
La plus jeune, Olga, elle est à fond sur identité graphique. Mais on sentait que c'était elle, la tête de la nouvelle identité graphique. Elle nous montrait des trucs et disait, bon, là, on voit que c'est un peu vieillot. Bon, toi, t'es là.
Ouais. Bon,
c'est blanc, quoi, enfin... Tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est elle, donc elle apporte vraiment ce truc de ça y est, on s'installe dans le aujourd'hui et hier, c'est déjà loin, quoi.
La communication entre les membres de Transeuropal est facilitée par la présence d'un hub, une sorte de forum d'entraide qu'Adrien Eudier de la plateforme nous explique.
Il y a un système de travail qu'ils appellent des hubs et qui fonctionne notamment par aire géographique.
Ou par thématique.
Ou par thématique, ouais. Mais pas par filière, pas par discipline.
La limite de ces hubs semble se trouver au niveau de la gestion et du stockage des données. C'est ce que pointe Michel, mais Cécile du Pôle Musique Actuelle relativise ensuite.
Les bases de données, pour eux, c'est simplement les contacts.
Oui.
C'est vraiment
que ça. Une information minimale.
C'est vraiment minimal. C'est pouvoir trier les différents membres, trier les gens dans des groupes de travail, dans des machins comme ça, mais c'est tout, en fait.
Pas que, parce que je crois qu'il y a quand même des informations sur le lieu qu'ils ont. Il y a les activités, il y a la superficie, il y a le type de bâtiment que c'est, et que du coup, ça c'est un truc sur lequel, en interne, sur l'intranet, tous les adhérents y ont accès, et du coup, si, par exemple, un organisateur cherche un truc, du coup il a ces infos-là. Donc il y a quand même des informations assez précises, mais qui ne sont pas tellement des informations effectivement de modèle économique et tout ça comme nous on pourrait l'entendre pour pouvoir faire des études. Par contre, il y a quand même un peu plus que le numéro de téléphone et le truc. Tu vois, tu as quand même des informations.
C'est des outils de tri en fait.
Oui, c'est ça.
Autre limite, mais plus liée à la structuration du réseau et à l'aspect européen de Trans-Europal, eh bien ce sont les questions environnementales. De l'avis même de la présidente du réseau, Mike, le réseau ne fait pas encore assez. Mais même en abordant seulement la question, les idées lui viennent.
Je pense que c'est une question de spécialistes. La pollution est une question très localisée. C'est aussi dur de rendre la chose intéressante et d'éviter de rentrer dans les questions de composition chimique. Mais c'est quelque chose que nous devons faire. Ce serait bien d'avoir une sorte de manuel, un guide, pour que lorsque l'on rentre dans un vieux bâtiment, on puisse savoir à quoi dois-je faire attention, tant sur la sécurité, l'électricité, la pollution ou l'isolation, toutes ces questions pratiques. Je connais des collègues belges qui ont fait ce genre de guide. Je devrais voir si je peux transférer ça dans un contexte européen. C'est délicat parce que le contexte de pollution n'est pas le même d'un pays à l'autre. Et les lois non plus.
Et on quitte maintenant Trans-Europal, mais on reste pourtant quelques instants à Lund pour se pencher sur les autres rencontres qui, de l'avis général, étaient un peu plus pauvres en apprentissage. La première, c'est celle du cabinet de consulting Nielsen & Manson qui s'occupe de conseiller entreprises et collectivités publiques sur des questions de soutenabilité, tant sociale qu'environnementale, une rencontre qui pourtant laisse un mauvais goût dans la bouche de Benoît Marie.
Très clairement, on ne parle pas le même langage et donc il y a éventuellement un business plan là-dedans. En fait, ces personnes-là, pour moi, elles représentent ça. Alors, je ne sais pas si le business plan, en l'occurrence, il est viable. Ça, on n'a eu aucun élément tangible pour nous dire ça marche et qu'est-ce que ça produit vraiment. Enfin voilà, on a des exemples dans le champ des arts visuels en Pays de la Loire où ça n'a pas marché quoi. C'était une proposition intéressante que de les rencontrer, mais elles n'ont rien donné, rien de saisissable en tout cas.
Benoît Marie qui est peut-être un petit peu extrême et en tout cas qui est relativisé par Stéphanie Lechêne de Mobilis.
Elles ont pris une place qu'il y avait à ce moment-là, parce que des engagements de l'État, les municipalités, du coup, elles font comme elles veulent pour mettre un plan en place autour du développement durable, de l'aspect social, etc. Il y avait de l'argent à prendre, elles ont proposé un projet, elles l'ont fait. Alors, ce qui a gêné, c'est qu'elles n'ont pas donné d'exemple précis, sauf que dans le consulting, le principe de base, c'est du sur-mesure.
Un bilan qui est bien pire, par contre, pour la rencontre avec la chargée de la division de publication de l'Université de Lund, Sarah Karom, la présidente de Mobilis, Claudine Pack, qui émet un bilan bien sévère.
Celle qu'on a rencontrée, en fait, elle avait peu de disponibilité. Enfin, elle n'était pas très généreuse dans tout ce qu'elle nous donnait, parce qu'elle ne nous a pas dit grand-chose. Mais on a su, par ailleurs, que c'était une formation qui était très jeune, qui avait sans doute 3 ans. Dans les contenus, il semble qu'il n'y ait pas de contenu critique, qu'il n'y ait pas d'analyse, pas de recul. Et celle qui est la chef de cette formation, sachant que celle, elle est quasiment seule sur la formation, elle avait elle-même pas de recul, pas de propos critiques. Elle n'a manifesté aucune curiosité envers nous, mais elle ne parlait vraiment que de la culture suédoise et sans recul sur le fait que le réseau des librairies ait été laminé, qu'il y ait deux maisons d'édition. Voilà, mais elle nous a tout dit à la louche, donc sans s'investir, et elle nous a donné aucun chiffre et rien du tout. Les étudiants qu'elle forme, c'est simplement au niveau master, des gens qui ont de 25 à 30 ans et qui ont donc une couleur, mais une couleur avec simplement des données. Mais je répète, pas de culture critique, un stage de 6 semaines dans les métiers, enfin vraiment très très peu de choses.
Et ne sachant absolument rien de la formation des bibliothécaires, l'autre formation métier de livre, qui elle était ancienne, mais il faudrait aller leur demander parce que vraiment elle n'était pas au courant.
Oui, et de même les librairies, il faudrait leur en parler. Enfin, on avait l'impression qu'elle ne savait rien et elle a usé et abusé de « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ».
Finalement, la seule rencontre intéressante de cette journée du jeudi, c'est visiblement Marie Profit, l'attachée culturelle de l'Institut français en Suède, même si l'intérêt pour les pôles des Pays de la Loire n'est pas immédiat, comme nous le dit Michel Bourg du pôle musique actuelle.
C'est intéressant parce qu'elle est la politique de promotion de la culture française au niveau des ministères. Il y a d'autres circuits qui se passent sur les échanges culturels, mais là, on est sur des positions officielles, en tout cas. On s'aperçoit quand même qu'ils ne sont pas orientés sur l'innovation particulièrement, enfin, ou en tout cas sur la découverte. Tous les noms qui ont été cités, les partenaires avec lesquels ils travaillent sont quand même des partenaires plutôt de grosse taille. Ils travaillent sur des noms plutôt connus, même si c'est du milieu de la danse ou du hip-hop. C'est pas n'importe qui. En littérature aussi, c'est aussi des choix de promotion d'un certain type de culture qui est peut-être pas sur des circuits avec lesquels on peut travailler, nous, en tant que pôle et en promotion d'artistes plutôt régionaux que nationaux.
Le lendemain, direction Ifstat, à la rencontre de Green Screen, un projet européen qui vise à introduire le développement durable dans l'industrie cinématographique. Un projet qui passionne moins les foules, encore une fois, mais qui reste intéressant, même si c'est plus pour la documentation du projet que la rencontre en elle-même, ce que nous explique Yann.
On t'interroge la personne de Green Screen, bon, elle va pas dans les détails, mais ils ont plein d'outils. Si, si on va sur les sites internet de EcoProd, Green Screen, il y a plein de choses qui sont ultra concrètes, et c'est juste qu'ils les mettent pas forcément en œuvre parce qu'à un moment, ils sont pas les mains dans le cambouis. En fait, elle, elle est une gratte-papier qui essaye de négocier qu'il y ait des films. C'est pas elle qui gère ça. Sinon, il faudrait aller rencontrer des techniciens, des techniciennes, des gens qui font vraiment le boulot et qui appliquent des solutions de développement durable qu'on pourrait utiliser.
Par contre, pour l'autre groupe, celui qui est parti directement à Malmö, il semble qu'il soit en bonne voie avec la découverte de Bibliothèque Garagette, un projet donc de bibliothèque inclusive dans un quartier difficile. Un projet intéressant, mais comme le disent Stéphanie Lechêne et Émilie Chevalme de Mobilis...
C'est pas dingue comme projet, il pourrait y avoir tellement d'autres. Quoi. C'est simple en fait à mettre en place.
Mais en fait, il y en a aussi en France, c'est ce qu'on s'est dit. Après, on a essayé de réfléchir un peu à ce qu'ils faisaient réellement en étant sur le lieu, on s'en rend un peu plus compte. Et en fait, on s'est dit, les maisons de quartier, les centres socioculturels, en fait, on s'approche assez de ça, sauf qu'on n'appelle pas ça bibliothèque.
Juste après cette rencontre, des interlocuteurs de qualité se présentent à eux, dans la personne des professeurs Bernd Clavier et Asko Kopinen. Mais de quoi parle-t-il ? Eh bien, c'est ce que Claire Giraud-Labatte nous explique.
Ils font des recherches très très pointues en métrologie. Donc ils travaillent sur les questions de mesure, d'évaluation. Alors ils ont un propos qui est un peu pointu, je dois dire, mais tout à fait intéressant et très critique sur à la fois la nécessité d'avoir des données, des datas, d'évaluer, mais en même temps le risque politique que ça soit utilisé d'une certaine manière par les politiques et que ça flèche en fait les politiques. Donc pour eux, il y a aussi toute une réflexion sur au-delà des mesures quantitatives, enfin comment on peut travailler.
Bien que donc parfois décevant, ces rendez-vous alimentent la réflexion et rassurent les pôles sur le stade de leurs propres actions, notamment sur les actions environnementales. Adrien, par exemple, s'efforce de remettre les choses dans son contexte.
Étant donné qu'on va loin, on a l'impression qu'à l'étranger, on va trouver des gens qui ont 10 fois plus avancé que nous. Et ce n'est pas des gens qui ont plus ou moins avancé, c'est des gens qui ont avancé différemment. Quoi. C'est vrai qu'on a une attente et une projection quand on part en mobilité qui est énorme. Et donc souvent, on est déçu finalement de trouver des professionnels qui font leur métier et un peu comme ils peuvent, avec leurs contraintes. Et moi-même, franchement, toujours un peu ce réflexe-là. Quoi. Si des Suédois venaient en mobilité chez nous et qui me demandaient d'expliquer quelle est ma politique de développement durable qu'on a affichée comme un axe prioritaire de notre association, je leur expliquerais que pour l'instant, on a mis en place une table ronde. Je dirais, les gars, franchement, pour un axe prioritaire, c'est un peu court. Quoi. Et ben, faut être indulgent et surtout... On a énormément d'attentes parce qu'on va loin, parce qu'on a mis beaucoup de choses aussi dans ce projet. Et ces gens qu'on rencontre, c'est des professionnels qui sont en mouvement et qui se mettent aussi à réfléchir à des choses. Et bon, c'est vrai qu'on a aussi rencontré des gens géniaux dans ces mobilités et que du coup, parfois, par comparaison, d'autres rencontres sont plus faibles ou plus légères. J'ai envie d'être indulgent avec ces gens parce que...
Approbation générale donc, mais heureusement, le dernier jour, retour à Copenhague où le niveau des rencontres revient au niveau de Transeuropale. Direction donc maintenant Copenhague. Premier rendez-vous à Copenhague dans cet Erasmus, le Nordic Culture Fund, un fonds qui rassemble le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, les îles Féroé, le Groenland et les archipels de Hollande. Quelques États et 3 territoires autonomes au point que...
We can't sell them to Trump, for instance, and we wouldn't like to either, even for Trump Tower.
On écoutait Søren Meril Stand, conseiller au Nordic Culture Fund, un fonds indépendant des gouvernements des pays qu'il regroupe, un fonds qui met surtout en avant ces valeurs qui sont
être pluriel, ouvert, être accessible et de haute qualité. C'est ce que l'on exige de nous-mêmes, de nos collaborateurs, de nos partenaires. C'est aussi ce que l'on demande des projets que nous soutenons.
Puisque oui, le Nordic Culture Fund est une fondation de soutien à des initiatives culturelles, mais c'est important, ils ne soutiennent pas juste un artiste, mais des collaborations d'artistes. Autre point intéressant, d'autant plus pour les artistes des Pays de la Loire, ils n'adressent pas leurs subventions qu'à des artistes des pays représentés dans le Nordisk, comme Søren nous l'explique avec l'exemple d'un artiste italien.
Vous devez déjà avoir quelques connaissances. Vous devez être capable de décrire qui vous souhaitez rencontrer, mais pas nécessairement ce que vous comptez faire. Faire de la recherche, rencontrer des gens et peut-être finir par faire un projet, c'est quelque chose que nous pourrions subventionner, même si vous êtes un artiste italien.
Autre point d'importance qui est soulevé dans cette rencontre avec le Nordic Culture Fund, le fonctionnement de celui-ci, avec notamment les ambassadeurs, un fonctionnement que nous explique Søren.
Nos ambassadeurs sont des artistes et des spécialistes culturels dans les régions nordiques qui nous donnent une plus grande portée. Parce qu'il faut que nous soyons présents dans toutes les régions nordiques. Si vous avez une idée de projet, vous pouvez les contacter. D'autant plus qu'ils connaissent leur domaine et peuvent trouver des gens à qui dire « Vous avez un beau projet, peut-être que vous pouvez en faire un projet nordique et demander des subventions au Nordisk Culture Fund. »
Avant-dernier rendez-vous de cet échange, un peu plus déprimant visiblement, c'était avec Orbach Jensen et Lene Alskov Hansen, respectivement conservatrice du fonds musique et celui du fonds folklore danois à la Bibliothèque royale danoise. Mais alors pourquoi déprimant? Eh bien Michel nous l'explique et Emmanuel surenchérit.
Il y avait 6 ethnomusicologues il y a 10 ou 12 ans. Là, maintenant, elle est toute seule et sous contrat, et ça s'arrête à la fin de l'année prochaine, et elle sait déjà qu'il ne sera pas renouvelé.
À la Bibliothèque nationale du Danemark.
La situation dans les pays scandinaves semble donc inquiétante pour la culture. Heureusement, le dernier rendez-vous de la semaine permet de prendre du recul, une sorte d'acmé de la semaine. On vous l'a présenté en introduction, Lotta Legval, directrice du théâtre de Göteborg et ex-vice-présidente de l'European Network on Cultural Management and Policy. Elle est la première à offrir un regard qui se veut global sur le monde de la culture, au moins pour la Suède.
On peut dire que la mission de la politique culturelle suédoise est qu'il y ait des productions culturelles intéressantes et de haute qualité partout en Suède. Bien sûr, il faut trouver une audience, mais parfois il faut prendre des risques. Donc parfois vous produisez quelque chose où le public ne se déplace pas, et ce n'est pas que c'est mauvais, c'est que le public ne vient pas. Cette idée n'est plus aussi sacrée, si vous me permettez l'expression, parce que maintenant, la discussion tourne de plus en plus autour d'une sorte de bilan comptable. Vous savez, combien de personnes est-ce qu'on a touché, combien on a gagné, qui sont nos sponsors, etc. Et c'est un peu une nouvelle question dans le monde culturel suédois. Nous avons malgré tout une des politiques culturelles les plus fortes d'Europe, mais c'est en train de changer.
Un bilan d'ailleurs partagé par Emmanuel de Mobilis, qui fait les mêmes constats sur cette rencontre.
Ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'idée de la fin d'une période. Dans les projections de leurs activités, les gens se disent « Ok, ça ne sera plus pareil ».
Bien sûr, comme à chaque rencontre de cet Erasmus, le voyage n'est que la première étape. Comme les deux fois précédentes, la situation en Suède et au Danemark engage beaucoup d'idées et de projets dans les pôles. En attendant, retour à Nantes avant un prochain départ, un prochain épisode. Et cette fois-ci, ce sera direction l'Espagne. We'll be right back.